Certainement, Socrate. Si l'injustice était capable en soi de donner la mort aux méchants, ce ne serait plus une chose si terrible, car ce serait un remède à tous les maux. Je pense au contraire qu'évidemment elle tue les autres autant qu'il est en elle, tandis qu'elle conserve, plein de vie et de plus bien éveillée, celui en qui elle fait sa demeure, tant elle est éloignée de lui donner la mort. Tu dis bien? Car si la perversité propre de l'âme, si son propre mal ne peut la tuer et la détruire, il est impossible qu'un mal, destiné par sa nature à la destruction d'une autre substance, fasse périr ni l'âme, ni toute autre chose que celle sur qui il doit produire naturellement cet effet. Oui, impossible, ce me semble. Mais il est évident qu'une chose qui ne peut périr ni par son propre mal, ni par un mal étranger à elle, doit nécessairement exister toujours, et que, si elle existe toujours, elle est immortelle. Oui. Posons donc cela comme un principe incontestable. Or, s'il en est ainsi, tu conçois que ces mêmes âmes doivent toujours exister. Car puisque aucune d'elles ne périt, leur nombre ne saurait diminuer, et il ne peut pas non plus augmenter. Car si le nombre des êtres immortels devenait plus grand, tu n'ignores pas qu'il se formerait de ce qui était mortel, et que toute chose finirait ainsi par être immortelle. Il est vrai? Or, c'est ce que la raison ne nous permet pas de croire, non plus que de penser que notre âme, considérée dans le fond même de son être, soit d'une nature composée, pleine de dissemblance et de diversité. Comment dis-tu? Il est difficile que ce qui résulte de l'assemblage de plusieurs parties soit éternel, à moins que la composition n'en soit aussi parfaite que vient de nous paraître celle de l'âme. En effet, cela n'est pas vraisemblable. Les raisons que nous venons d'alléguer, et bien d'autres, démontrent donc invinciblement l'immortalité de l'âme. Mais pour bien connaître sa véritable nature, on ne doit pas la considérer comme nous faisons, dans l'état de dégradation où la met son union avec le corps et d'autres maux. Il faut la contempler attentivement des yeux de l'esprit, telle qu'elle est en elle-même, dégagée de tout ce qui lui est étranger. Alors on verra qu'elle est infiniment plus belle. On connaîtra plus distinctement la nature de la justice et de l'injustice et des autres choses dont nous avons parlé. Tout ce que nous avons dit de l'âme est vrai par rapport à son état présent. Mais comme que ceux qui verraient Glaucus le marin auraient peine à reconnaître sa première forme, parce que les anciennes parties de son corps ont été les unes brisées, les autres usées et totalement défigurées par les flots, et qu'il s'en est formé de nouvelles de coquillages, d'herbes marines et de cailloux, de sorte qu'il ressemble plutôt à un monstre qu'à un homme tel qu'il était auparavant. Ainsi, l'âme s'offre à nos regards défigurée par mille maux. Mais, mon cher Glaucon, voici par quel endroit il convient de la regarder. Par où? Par son goût pour la vérité. Il faut considérer à quelle chose elle s'attache, quel commerce elle recherche, comme étant par sa nature de la même famille que ce qui est divin, immortel, impérissable. Il faut considérer ce qu'elle peut devenir, lorsque, se livrant tout entière à cette poursuite, elle s'élève par ce noble élan du fond des flots qui la couvrent aujourd'hui, et se débarrasse des cailloux et des coquillages qu'amasse autour d'elle la vase dont elle se nourrit, croûte épaisse et grossière de terre et de sable qu'elle doit à ces bienheureux festins, comme on les appelle. Un tel spectacle ferait bien connaître la vraie nature de l'âme, si elle est simple ou composée. En un mot, quelle est son essence? Quant à présent, du moins, Nous avons assez bien expliqué, ce me semble, les passions et les diverses inclinations de l'âme, telles qu'elles apparaissent dans la vie actuelle. Je le crois. Or, de la manière dont nous avons raisonné, n'avons-nous pas dépouillé la justice de tout ce qui lui est accessoire et écarté les récompenses et les honneurs que vous lui avez attribués sur la foi d'Homère et d'Hésiode? N'avons-nous pas démontré que la justice est par elle-même le grand bien de l'âme, que celle-ci doit accomplir ce qui est juste, soit qu'elle dispose ou non de l'anneau de Gigès, et si l'on veut encore, outre cela, du casque de Pluton? Tu dis très vrai. On ne peut donc pas trouver mauvais, mon cher Glaucon, de nous voir maintenant restituer à la justice et aux autres vertus, indépendamment de ces avantages qui leur sont propres, les récompenses que les hommes et les dieux y ont attachées, et pendant la vie, et après la mort. Non, certes. Mais vous, ne me rendrez-vous pas les concessions que vous m'avez demandées? Quoi donc? J'ai bien voulu vous accorder que l'homme juste peut passer pour méchant, et l'homme méchant pour juste. Vous avez cru qu'on devait vous accorder ce point dans l'intérêt de votre recherche, quand même il serait impossible de tromper en cela les hommes et les dieux, pour qu'on pût apprécier nettement la justice et l'injustice prises l'une et l'autre en elles-mêmes. Ne t'en souviens-tu pas? J'aurais grand tort de ne pas m'en souvenir.